Mercredi 2 mars, bienvenue au show du matin, Max Sock. Comment ça va?
Ah bien, bon retour mon GF, bon retour.
Merci, merci.
On a les camps d'entraînement sont commencés dans le baseball mineur, puis j'ai eu la chance, je vais t'en parler lundi, mais là, vu que t'étais pas là, j'en profitais là. J'ai eu la chance d'aller dans le camp d'entraînement des Associés de Laval 11U, nice. Dans le 2A. Très content, c'était un retour à la maison un peu pour moi, parce que j'ai coaché là il y a peut-être 15-20 ans. Puis, j'étais content de revoir la structure, de voir comment ça se passait. Ils ont des bonnes idées. Puis, j'étais content d'être sur place, leur donner un bon coup de main. Fait que je voulais les saluer, puis je voulais souhaiter un bon début de camp d'entraînement à toutes les organisations qui ont commencé en gymnase déjà. Puis, j'espère vous croiser sur le terrain cet été aussi. J'en profite de passer à Poc, à Barbu de Ville, qui est avec nous aujourd'hui. Jeff, Barbu, comment ça va?
Ça va super bien, en direct de Ville-la-Chine, messieurs, downtown.
Où est-ce qu'on a un auditeur qui est assez assidu, Pat de Pitbull Gagnon aussi, qui vient de la chaîne.
Et voilà.
Qu'on n'a pas vu d'ailleurs depuis un certain temps, là, je tiens à le mentionner. Je t'avais d'appeler le 911.
OK, OK. je vais l'appeler prendre de ses nouvelles, puis je vous reviens avec ça lundi prochain. Mais Barbu, la chaîne, ça va?
C'est super beau, c'est même bucolique.
OK, bon, on passe au prochain sujet.
Max, avant, parce que j'aime ça, le sujet que tu as amené, mais avant de passer à Barbu, mais toi, quand tu te déplaces dans un camp de même, tu vas voir quoi pour vrai? Qu'est-ce que tu regardes? Tu dis que tu vas voir comment ça se passe, tout ça, mais qu'est-ce qui t'intéresse de regarder un camp d'entraînement comme ça?
Ben, moi, en fait, c'est que je suis allé donner un coup de main, littéralement. C'est sûr que bon, mon petit gars participe au camp. Puis étant donné qu'il participe au camp, ils m'ont demandé si je lui donnais un coup de main. Fait que j'ai pris un atelier. Un bon vieux TOS 45 dans un rideau de gymnase. Okay. Puis j'en ai profité pour voir que ça avait de l'air du 11U parce que, sans farce, j'ai coaché 16 puis 18U. Fait que il y a un gros gap entre les deux, mais j'ai été surpris de voir le talent des joueurs. Il y en avait beaucoup. Là. Il y avait quand même près de 50 jeunes en deux groupes. Mais de voir ça te ramène aussi à la base qui est élémentaire. Puis des fois, t'es capable de faire des liens avec des jeunes, des gars plus vieux, de dire, OK, ouais, c'est ça qui manque. Fait que c'est assez intéressant pour un coach de revenir dans une catégorie qui est plus basse que ce qu'on coach habituellement.
OK, OK. Barbu de Ville.
Yes.
Ta présence, justement, bimensuelle. Petit texte.
Effectivement.
En fait, la dernière fois, je pense que je t'ai reproché ou je me suis questionné sur la longueur de ton texte. Je ne le trouvais pas assez long. Puis là, quand j'ai vu celui que t'as envoyé cette semaine, j'étais comme, c'est un livre, ça. Je pense qu'il y a 12 pages. Fait que...
On commence ici.
Ouais, c'est ça. Une belle histoire sur Satchel Paige. Je te laisse aller, puis le texte est disponible sur le site de Baseball Québec.
Merci, GF. C'est ça. Ça s'intitule tout simplement Satchel Paige. Leroy Paige est né par une belle nuit étoilée du 7 juillet 1906. Parmi toutes les étoiles qui étaient dans le ciel de l'Alabama ce soir-là, hey, je l'ai eu, yes, Leroy allait en devenir la plus scintillante. Pourtant, lui qui n'était qu'un simple nègre de son état. Fils de ramasseur de coton, fils de femme de ménage, il allait faire courir les foules toute sa vie durant. Il allait même se faire applaudir par des foules de blancs. Leroy a compris rapidement dans son existence de nègre qu'il en était un. La scène se passe en 1910. Il a 4 ans. À l'époque, le KKK était bien en vue. C'était même une organisation remplie de bons chrétiens et de bons catholiques. C'était l'époque de la bonne vieille ségrégation. Ici, il faut lire mon sarcasme. Cette journée froide d'automne, il prenait l'autobus pour la première fois de sa vie avec sa mère, Lula. Ils sont entrés par l'arrière du bus. Le jeune Leroy, qui était curieux, demande à sa mère pourquoi ils sont entrés par en arrière alors que le bus s'est arrêté juste en face d'eux. Sa mère lui a dit, les gens de couleur comme toi et moi, on doit tous entrer par l'arrière de l'autobus, c'est la loi. Les 4 premières rangées sont aussi seulement pour les Blancs. C'est la loi, mon garçon. Sous aucun prétexte, tu peux enfreindre ces lois parce que c'est simple, Leroy, c'est la loi des Blancs. Paige, du haut de ses 4 ans et demi, a répliqué à sa mère que le jour où il deviendra une étoile du baseball, il achètera un autobus. Pour fin historique, il faut savoir que les quatre premières rangées des autobus étaient réservées aux Blancs. Le trois quarts de la population de la ville de Mobile était noire. À l'âge de 7 ans, pour aider la famille, Leroy s'est trouvé un travail à la gare de Mobile. Il était porteur. Porteur de petites misères à la semaine. Il était payé une pauvre scène par sac ou valise de voyageurs qui traînait. Mais comme il voulait faire plus d'argent pour sa mère, il s'est fabriqué un long manche à balai avec de la corde, un support pour pouvoir traîner quatre sacs à la fois. Ainsi, les autres jeunes qui travaillaient le surnommaient « Tree of Bag » ou, si vous aimez mieux, « l'arbre à sac ». À la gare du train, le surnom s'est transformé avec le temps pour le diminutif « satchel », qui veut dire « sac ». C'est comme ça que Leroy Page a eu son fameux surnom de « satchel ». C'était pas pendant une game de baseball, mais pas pantoute. À l'âge de 13 ans, satchel a été arrêté pour « shoplifting ». Ou, si vous aimez mieux, c'est une vieille façon de le dire, « vol à l'étalage ». Comme ce n'était pas sa première offense, il est envoyé à l'école de réforme de la ville de Mount Meg dans l'État de l'Alabama jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ce temps-là, on niaisait pas. À l'époque, écoutez bien ça, ça n'existerait plus aujourd'hui, là. À l'époque, on appelait cette institution l'école industrielle pour les enfants de nègres. Pendant son séjour à l'école de réforme, il a appris qu'il n'était pas un dur de dur. Ben, il s'est bien rendu compte que finalement, il n'était pas si tough que ça. Pis c'est lors de ces années à l'ombre qu'il est devenu un lanceur sous les bons conseils du père Edward Byrd. Le révérend Byrd a développé son style flamboyant. Il fut libéré pour bonne conduite 6 mois avant ses 18 ans. C'était en décembre 1923. Lors de sa sortie de l'école de réforme, Satchel jouait avec son frère Wilson pour l'équipe semi-pro des Tigers de Mobile. Puis lors d'une partie mémorable, un certain dimanche de août 1924, il affrontait les Downs de Bay. On était en 9e manche, c'était 1-0 pour les Tigers. Aucun homme s'est senti, 2 retraits. Quand ses coéquipiers se mettent à cafouiller pour 3 erreurs consécutives, on remplit les sentiers, puis c'est pas de sa faute, là. C'est des simples erreurs de ses teammates. Les sentiers sont remplis, Satchel est furieux, il tourne autour du monticule comme un taureau, il donne des coups de pied sur le même monticule, puis il sac. On pouvait entendre des phoques un après l'autre. Les partisans des estrades le huent. Ils lui lancent tous les objets qu'ils peuvent trouver à portée de main de partisans. Tout à coup, dans un geste d'éclat, du haut de ses 17 ans et 3/4, Satchel crie à tous ses coéquipiers sur le terrain, exception faite de son catcher, de retourner au banc. « J'ai pas besoin de vous autres. Vous êtes tellement mauvais que j'ai pas besoin de vous autres. Moi et mon catcher, on va régler ça. » En bref, il fait juste leur dire qu'il n'y a pas besoin d'eux autres. La foule est en délire, on le siffle, on s'en moque évidemment, on se moque de son arrogance. Le frappeur souvent se présente à la plaque avec 3 hommes ses sentiers et personne en défensive. Satchel lance 3 magnifiques balles en plein cœur du marbre, 3 rapides à la vitesse du son, puis peut-être plus vite, t'sais. On ne pouvait pas le calculer dans le temps. 3 balles qui se sont transformées en prises pour un 3e retrait dans un petit parc de balles de quartier. Satchel Page avait mis son grand pied à terre. La foule de Mobile avait assisté à la fabrication d'un moment légendaire. C'est ce soir-là que le grand Satchel commença à jouer au bras avec son mythe. Il a commencé sa carrière professionnelle en 27 dans la Negro League. Il aurait pu facilement jouer dans les majeurs, mais malheureusement, il n'y avait pas la bonne couleur. C'est des choses qui arrivent. Puis c'est des choses qui arrivaient à cette époque-là. Cette année-là, il a joué avec les Black Barons de Birmingham. Ça fait beaucoup de B. Il a terminé sa première saison avec une fiche de 7-1. Son premier contrat était de 250$ par mois. Il en gardait 50, puis il donnait le reste à sa mère. Satchel, il disait souvent qu'il voulait l'entendre, vu que pour lui, le lancer, c'était une seconde nature, c'était facile. Puis il disait aux autres lanceurs qui avaient de la misère, ben, prends la balle, lance-la où tu veux, là. Et lance des prises. Ce qui est beau que le baseball, il disait ça lui-même, Satchel, ce qui est beau que le baseball, c'est que le marbre, là, il bouge pas. Sa légende, son mythe, grandissait à chaque match qu'il lançait. La foule était légion. À lui seul, Satchel faisait vivre la Negro League. Puis il l'a fait vivre à peu près pendant 20 ans. Il était la grande attraction. Pendant toutes ces années, il a réussi 2 matchs sans point coup sûr, 1 match parfait, Il y a eu des saisons mémorables de 20 victoires, 3 défaites, 26 victoires, 4 défaites, 33 victoires, 2 défaites et combien d'autres. Ça, d'ailleurs, j'ai été chercher ces stats-là sur le site de la Negro League, ce qui n'est pas facile parce que la Negro League était très, très folklorique à l'époque. C'était tout simplement une légende vivante. Lors d'un match d'exhibition contre les étoiles des Ligues majeures, il a eu l'honneur et le plaisir d'affronter le grand Joe DiMaggio des Yankees de New York. Encore une fois, Satchel allait faire grandir sa mythique légende. Voici la scène. C'est le tour de Page de lancer. Il lance durant 2 manches comme tous les lanceurs étoiles de l'équipe. Tout le monde veut se tester contre les gars des Ligues majeures, évidemment. On veut se tester contre les Blancs. Tout le monde veut son moment de gloire. Page a donné une clinique de pitching. Il a été tout simplement parfait. Rendu à sa 2e manche, il y a 2 retraits. Il n'a pas gaspillé un lancé. Aucun homme s'est senti. Il y a 2 frappeurs devant John Clint Joe DiMaggio. L'unique Satchel donne 2 buts sur balle automatique pour pouvoir affronter John Clint Joe. La foule d'assiste à une autre page du grand livre de Page. La foule est restée debout en silence. Quand le numéro 5 s'est présenté au marbre, la foule lui a donné une ovation. Satchel l'applaudissait aussi à s'en rendre les mains rouges. Il est allé donner à la main de Maggio. C'était l'heure d'un classique. Premier lancé, une prise. La foule debout applaudit discrètement. 2e lancé, une fausse balle en arrière du marbre. Joe est en retard, puis pas à peu près sur les lancers. Déjà 2 prises. La foule retient son souffle. 3e lancé, au dernier moment, John Clint Joe demande un temps d'arrêt pour déstabiliser le lanceur étoile. Satchel fait un clin d'œil à DiMaggio. La foule siffle. Encore une fois, il commence à se prendre pour un autre. 4e lancé, une balle en plein cœur du marbre. Elle a sifflé jusque dans la mitaine de Josh Gibson, le fameux receveur tout étoile. Joe a frappé dans le vide, une prise. La foule s'est dirigée vers le monticule, a porté Satchel autour du parc pour lui faire un tour d'honneur. Les 2 hommes se sont donné une vraie poignée de main sincère et remplie d'admiration. Plusieurs années plus tard, dans sa biographie, c'est écrit noir sur blanc, John Clint Joe déclare « Le meilleur lanceur auquel que j'ai fait face de toute ma carrière, c'est nul autre que Satchel Page. » Le 9 juillet 1948, à l'âge de 42 ans, Satchel devient la plus vieille recrue des Ligues majeures. Les Noirs ont le droit maintenant de jouer à balle avec les Blancs. Ce soir-là, ils portent l'uniforme des Browns. C'est quand même ironique, hein, les Browns de Saint-Louis. Et son équipe remporte le match contre les Indians de Cleveland. Il a joué finalement de 1926 à 1950 dans la Negro League. Et de 1948 à 1953 dans les majeures. Il a joué son dernier match dans la MLB à l'âge de 47 ans. En 65, il revient dans les majeures pour une seule partie avec les Athletics de Kansas City. Il a 59 ans. C'est la question de faire toutes ces décennies-là depuis les années 20. Le 25 septembre, il accorde qu'un seul coup sûr et retire un frappeur sur 3 prises en 3 manches lancées d'un majeur à 59 ans. Il a été élu le premier joueur de la Negro League au Temple de la renommée du baseball en 71, puis est mort le 8 juin 1982 d'une crise de cœur dans sa maison de Kansas City à l'âge de 75 ans. Voilà, fin.
Bravo, Barbu.
Solide. Merci. Tout un personnage, je pense qu'on ne le connaît pas assez, justement, parce qu'il n'a peut-être pas joué assez longtemps dans les ligues majeures, mais toutes les stats que tu as parlé, tu sais, c'est complètement incroyable.
Ben, on en parle souvent comme l'un des meilleurs lanceurs.
Oui. Mais tu sais, c'est pas autant que Joe DiMaggio, Babe Ruth, puis il y a bien d'autres lanceurs qu'on parle beaucoup plus que Satchel Paige. Je trouve qu'il est un peu méconnu par rapport aux autres, mais c'est ça.
Tout à fait.
Les boys, good job pour ça.
Merci.
On te garde avec nous, Barbu, parce qu'on veut ce matin faire un top 3 de nos films. C'est la semaine de relâche, ou pour certaines personnes, parce qu'il y en a que c'est la semaine passée, là. Mais on veut amener un top 3 chacun de nos films, documentaires, séries, peu importe ce qu'on apprécie et qu'on suggère aux gens de regarder à propos du baseball, évidemment. Donc, Max, je te laisse commencer avec ton troisième ou ton premier, là, celui que tu veux.
Ouais, j'ai commencé. Je vais aller avec mon numéro 3. Écoute, juste pour la scène où ce que l'entraîneur se fait expulser, puis quand guirlande une de ses joueuses, une ligue en jupon, où ce que Tom Hanks est absolument fantastique. Donc, va être mon top 3, va être mon numéro 3. Ce qui est intéressant, c'est que Tom Hanks prend le rôle d'un entraîneur d'une équipe féminine de baseball. Donc, il y a une ligue qui se crée. Puis, c'est tiré d'un gars qui a vraiment existé, qui s'appelle Jimmy Fox, qui a coaché dans cette ligue-là, puis qui a été le plus jeune à atteindre les 500 coups de circuit dans le baseball majeur. Puis, cette marque-là a tenu jusqu'à temps qu'A-Rod batte cette marque-là d'être le plus jeune à frapper 500 circuits dans le baseball majeur. Juste la scène où ce qu'il dit qu'il n'y a pas de pleurs au baseball est légendaire. Fait que moi, je vous suggère, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller le voir. Puis ceux qui l'ont vu, d'aller revoir ce film-là qui est, à mes yeux, excellent.
Ouais, mais c'est le genre de film. Tu sais, moi, j'ai quelques films comme ça là, que je regarde en background. Tu sais, tu fais d'autres choses, puis ça se joue en background. Puis tu sais où tu es rendu dans le film. Ça fait partie de ceux là.
Exactement.
Barbu, vas-y donc.
Ben, c'est drôle, on va faire du pouce sur la Ligue de Jupon, League of the Round. C'est mon troisième aussi. On va faire du pouce là-dessus. Jimmy Fox qui a joué avec les A's de Philadelphie à l'époque, gros frappeur de circuit. Mais cette ligue-là existait aussi pour le vrai, là, c'est biographique. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, pour avoir visité le Hall of Fame à Cooperstown, il y a une grande section qui appartient à cette ligue-là de filles-là. C'est un film, c'est un super bon film, puis t'as raison, moi aussi, je peux le regarder en background, je l'ai vu tellement de fois. Mais c'est surtout un film historique, c'est ça qui est intéressant de ce film-là. Puis la comédienne Gina Davis qui fait le catcher de ce film-là, ben c'est une très grande joueuse là, dont je me rappelle plus le nom, qui a sa statue au Hall of Fame. Là. Fait que pour les gens aussi, ça peut être intéressant. Puis pour les enfants, puis les plus jeunes, là, puis les filles là, qui jouent avec les Rebelles ou Team Québec, ça peut être intéressant de voir ça. Là.
Ah ouais, puis il y a des grandes actrices, là, il y a quand même des grandes actrices, des personnes connues, je dirais plus, là, mais t'as Rosie O'Donnell, t'as Madonna qui est là-dedans, Gina Davis qui est absolument fantastique, t'as de la gomme là, là-dedans, là. Fait que, c'est vraiment un bon film à regarder. Là.
Question pour vous autres, les boys, si les gens veulent regarder ce film-là, savez-vous s'il est disponible sur une plateforme en particulier? Vous regardez ce film?
J'ai pas pris le temps de regarder.
Netflix.
Ah, il est là?
Ah ouais?
Ouais.
Ah, OK, ben, c'est bon à savoir. Moi, je vais y aller avec un petit documentaire. Ça dure à peu près une heure. C'est pas vraiment long. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais ça s'appelle Long Shot. Disponible sur Netflix. C'est un papa de famille de Los Angeles qui s'en va voir une game des Dodgers.
Ben ouais.
Puis en sortant de là, il se fait arrêter. Il est accusé de meurtre. Puis finalement, il y a une autre série qui est tournée dans le stade, puis avec le footage des caméras, on réussit à prouver qu'il est dans le stade, mais sans les preuves de ça, qui ont été super difficiles à voir, il aurait été probablement en prison aujourd'hui. Ça se passe dans le stade des Dodgers de Los Angeles. C'est vraiment pas long, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est justement, on réalise à quel point que les personnes... si je me trompe pas, je pense que c'est un Mexicain, là. Ouais. Tu sais, il est juste vu comme un autre Mexicain qui a fait un meurtre. T'sais, rien de plus, alors que c'est un père de famille que, tu sais, on connaît pas son histoire complète, mais super honnête, super, un bon père de famille. Donc, ouais, c'est super intéressant, puis c'est disponible sur Netflix aussi.
Non, absolument, c'est excellent. Excellent comme documentaire. Je l'ai vu il y a quelques mois, par contre, mais ouais, c'est excellent. Ouais. Numéro 2, je suis un bon fan de faits vécus, donc, puis un Feel Good Movie à écouter avec les enfants aussi, c'est The Rookie, l'histoire de Jim Morris qui out of the blue, se présente dans un camp des Devil Rays de Tampa Bay pour essayer de faire l'équipe, puis que finalement, il lance quelques lancers à 98 000 à l'heure, reçoit le contrat, puis il fait son chemin jusqu'au baseball majeur. C'est une histoire qui est très bonne. C'est réalisé par Walt Disney. Donc, c'est super bien fait. Dennis Quaid qui joue là-dedans. Donc, The Rookie pour moi en deuxième position. Barbu?
Moi, c'est un film fin des années 80, début des années 90. Bull Durham, la version française est à chier. Là. C'est Ménage à trois, mais on va dire Bull Durham, c'est l'équipe Club-École des Braves d'Atlanta. J'aime autant dire ça. Avec des gros noms, Suzanne Sarandon, Tim Robin, après se sont mariés sur le set de ils se sont rencontrés sur le set de ce film-là, et Kevin Costner. Ce film-là, c'est la quintessence. Si vous voulez savoir c'est quoi les ligues mineures, c'est la quintessence des ligues mineures, ce film-là. Ça représente très bien. Ça se passe tout le long d'un ligue mineure. Ça représente très bien c'est quoi jouer dans Durham, les Bulls, c'est un club de 2A, là. Fort, mais c'est du 2A. Ça représente très bien c'est quoi le 2A. C'est folklorique. C'est souvent n'importe quoi. Il y a des filles qui sont dans cette ville-là, dans ce village-là, qui attendent les nouveaux joueurs qui arrivent. Certaines filles vont se matcher, vont se marier. C'est le but à Durham de rencontrer un joueur de balle puis espérer qu'il se rende dans les majeurs, comme le comédien Tim Robin, qui est un jeune imbécile qui tombe en amour avec Suzanne Sarandon, qui est une vieille cougar dans ce film-là. Mais ce film-là, il y a tout dans ce film-là. C'est un grand film qui a été aux Oscars aussi. C'est un grand film au niveau de la trame sonore. On peut entendre du Edith Piaf. Il y a tout dans ce film-là pour les ligues mineures. Voilà.
Moi, j'y vais avec un autre documentaire. Je ne sais pas encore une fois si vous l'avez regardé. The Battered Bastard of Baseball. C'est un bon documentaire sur une équipe des ligues mineures qui n'a aucune affiliation avec une équipe des majeures. Propriétaire Bing Russell, qui est le père de Kurt Russell, acteur, ben c'est deux acteurs en fait, les Mavericks de Portland. Moi, je le conseille, c'est vraiment cool. C'est le Bing Russell, qui est un acteur, amène le côté artistique, un peu son côté party, son côté événement à cette équipe-là, avec des joueurs qui ont pratiquement aucune chance d'aller dans le baseball majeur, puis ils réussissent à gagner des matchs, puis à faire un show, puis même à débalancer complètement les lignes majeures. Tu sais, personne n'en revient de ce qui se passe. Bref, c'est vraiment cool à regarder. C'est pas super long comme documentaire non plus. Là, ça a quelques épisodes, mais c'est vraiment, vraiment intéressant.
Sur Netflix, toujours.
Oui, exact.
Oui, c'est un original Netflix. Puis Bing Crosby, il ne faut pas oublier une chose. À l'époque, lui, quand il restait en Floride, pendant la Ligue des Pamplemousses, il était bad boy pour les Yankees. Dans les années 40, là. Fait qu'il était bad boy pour Joe DiMaggio, Mickey Mantle. Puis c'est de là qu'est venu son amour. Puis son fils Kurt, qu'on connaît beaucoup plus, nous autres, là, c'est un méchant joueur de balle, là, qui a joué universitaire, puis c'était pas un piment, là. Il a pas fait l'équipe pour son fils. Bon, mais c'est le fun de voir ça parce que c'est hyper folklorique aussi, avec le chien qui rapporte le bâton, puis c'est lui le bad boy, là.
Ouais. Ah non, c'est vraiment cool. Puis, ben c'est ça, c'est une belle histoire qui se termine pas bien là, parce que finalement, ils ont fait déménager l'équipe, là, si je me souviens bien, malgré les foules nombreuses et tout. Là.
Ouais, mais ça, c'est les ligues. Rappelle-toi, ça, c'est les ligues majeures qui voulaient ça.
Oui, oui, oui.
Les ligues majeures voulaient plus d'équipes indépendantes. Ça les achalait, ça. Là. Ils paraissaient mal. Donc, je me souviens plus du nom du lanceur des Yankees qui a joué avec les Mavericks. Il venait de jouer dans les séries mondiales, puis là, après, 2-3 ans après, il s'est ramassé avec les Mavericks. Les majeurs n'aimaient pas ça.
Oui, exact, exact.
Mais il y a encore des choses que tu vois dans ce film-là que des équipes indépendantes reprennent. Tu sais, mettons, je me rappelle un moment donné, je pense que c'est les Capitals qui n'avaient pas fait une course avec un cheval autour des buts.
Ben oui, avec Colin, leur meilleur frappeur de circuit de tous les temps, des Capitals.
Pas Eddie Lantigua, c'est...
Oui, c'est ça, ouais. Exact. C'est lui qui courait autour des buts.
Ah ouais, je me rappelais pas de ça, mais je sais qu'ils l'ont fait. Mais c'est des choses qui ont été faites, que tu vois dans ce film-là, que si tu vas voir du indie ball, là, du baseball indépendant, tu vas retrouver ça entre les manches, avant le match, après le match. Ils ont pris de ces idées-là, puis ça fait différent. Fait que, non, c'est intéressant à voir, ça te rappelle des souvenirs. Top 1, les boys?
Yes.
Ben là, j'ai pas le choix d'y aller avec un bon film qui parle des Yankees de New York, 61. Ça va, Barbu? Donc, c'est la course au coup de circuit pour rattraper le record de Babe Ruth par Roger Maris et Mickey Mantle. Encore un film réalisé par un grand fan des Yankees qui est Billy Crystal. Moi, je trouve que c'est un super bon film, super bien fait. Puis, ça t'apprend tellement sur la riche histoire des Yankees de New York, puis la pression qui venait aussi avec ça parce que Les journalistes étaient fatigants, puis comment que c'est pesant. T'sais, on pense que les Canadiens de Montréal, c'est quelque chose, mais les Yankees de New York, c'est à mes yeux 2-3 coches supplémentaires. Fait que prenez le temps de regarder ça, 61. Moi, il est enregistré dans mon Helix, mais je ne suis pas sûr qu'il est sur Netflix ni Helico.
Je pense pas, ouais, non.
Faut l'acheter ou peut-être YouTube pourrait être disponible.
Possiblement. Ouais.
Mais ça me fait rire, tu sais, parce que c'est vrai, on dit qu'à Montréal, les gars ont beaucoup de pression, ça n'a rien à voir avec les Yankees, là. Rien. On n'est même pas proche, là, tu sais. Moi, mon film, mon classique, c'est. Je veux pas t'astiner que les Yankees, c'est vrai que c'est un bon film. Là. Ben, moi, je pense que c'est le classique des classiques pour l'Américain moyen, là, le National Pastime. C'est Field of Dream avec Kevin Costner. Je sais pas, moi, ce film-là, ça vient me chercher énormément. Je vais avoir de la difficulté à vous en parler de ce film-là. Oui, j'étais un grand émotif, là, clairement. Là. Mais ouais, ce film-là, pour moi, représente le baseball dans son essence et son entité. Tout est là. C'est ça, le baseball. On n'a pas à se poser de questions. C'est absolument ça. C'est familial. C'est...
D'ailleurs, le match qu'il y a eu l'année passée, justement, qui a impliqué les White Sox et les Yankees, ça a été un moment, tu sais, c'était beau, là, tu sais, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont reproduit, on a vu l'émotion.
C'est bon, ça.
Ouais. C'était vraiment, vraiment cool à voir, ça.
Ouais, le baseball majeur a cette capacité-là de reprendre des moments extraordinaires puis d'en faire quelque chose d'actuel, comme le match White Sox-Yankees, en plus que c'est un match qui est excellent, là. Si t'as un match à regarder parce qu'il passe des reprises, là, mais tu sais, des fois, tu vois, mettons, le match parfait de David Cohn contre les Expos. Mais ce match-là, s'il repasse en reprise, il faut que tu le regardes, un, pour la prise de vue. Mais le match en tant que tel est exceptionnel. Puis le baseball majeur sont capables de faire des bonnes choses de même. Tu sais, on parle beaucoup en négatif du baseball majeur présentement à cause de la négociation entre les joueurs, les propriétaires. Mais tabarouette, il y a tellement de potentiel. Puis effectivement, Field of Dreams, c'est... Si tu veux comprendre le baseball et pourquoi que le monde est en amour avec le baseball, t'écoutes ce film-là, tu devrais tout comprendre.
Je suis d'accord. On n'a pas parlé à date de Moneyball ni 42, le film de Jackie Robinson. C'est des films que pas mal tout le monde a vu, je pense. Là. Moindrement fan de baseball, ça reste des bons films à voir. Mais je vais y aller. Moi, Max, t'es allé avec un film comme fan des Yankees tantôt. J'ai pas le choix d'y aller avec ce film-là.
T'en vas pas à Fever Pitch, là.
Je m'en vais dans une direction parce que c'est exactement le genre de film qui joue en background non-stop. C'est le genre de film qui me rappelle un des plus beaux moments de ma vie dans le sport. Ça se passe en 2004. Les Red Sox qui font une remontée contre les Yankees pendant les séries. Fever Pitch. Fever Pitch est un film que quand je me souviens plus c'est quoi le feeling de détester les Yankees, je regarde ça.
Hey, je regarde ça. Écoute, Jeff, là, je vais faire semblant que t'es pas là.
Ouais, c'est ça. Hein?
Yes, Max.
Je faisais cette liste-là et je me disais, ça se peut pas que quelqu'un mette ce film-là. Jeff va le mettre numéro 1. Pas mention honorable, pas accident passant. Non. Drew Barrymore, Jamie Fallon. Fever Pitch.
Exactement. C'est un bon film pour la famille. C'est un bon film pour comprendre c'est quoi être un bon fan des Red Sox. C'est parfait.
On va se le dire, là, à part le monde à Boston, on va inclure les gens à Boston qui ont aimé ce film-là.
Et les gens à Mirabel.
Bon, ben c'est ça que je m'en allais dire. On va inclure deux individus à part les gens de Boston. Là. Deux individus louches, by the way. Jean-François Charles, OK? Ancien bad boy des Rockies de la chute. Et... ce bon vieux Frank Étier. Clairement, là, je m'en allais dire des choses vulgaires, mais je vais les garder pour moi.
moi, pour vrai, j'adore ce film-là. J'adore. Puis je l'ai même, tu parlais d'enregistrer, moi, il est enregistré dans mon Apple TV.
Non, arrête. Tu t'es en train de défaire toute ta réputation, là. Arrête.
Quel bon film.
Martin, ferme la caméra. Enlève le son, là, c'est assez, là.
Hey, quelle belle façon de terminer notre top 5, hein? Notre top 3.
Je savais qu'il fallait que je finisse. C'était tout saccagé.
J'ai quasiment pleuré sur Field of Dream. Lui, il arrive avec Fever Pitch.
Non, mais je l'ai, Barbu, je l'ai. Bon, c'est toi, Barbu, qui aurait dû finir, mais on va finir ça sur une bonne note. Mention honorable. J'ai deux mentions honorables. Donc, si un jeune peut-être de 13-14 ans et plus, vous avez le goût d'écouter un film avec lui, Major League 1 et 2.
Yes.
Traduit en français. Renvoie une balle Wheelers. C'est bon en tabarouette. Donc, je vous conseille Major League 1 et 2 aussi. Ça va finir sur une meilleure note avec les Indiens de Cleveland. Excellent film. Puis, traduit à part ça, c'est encore meilleur.
Mention honorable. Moi, j'y vais de même. Tout de go, j'ai pas pensé. Un film historique biographique sur la vie de Ty Cobb qui s'appelle Cobb, tout simplement. Excellent. Un autre film Oscar.
Tommy Lee Jones.
Oui, exactement. C'est un bijou de film. On voit quel être exécrable était Ty Cobb, qui est devenu millionnaire avec le baseball. Ben oui, même dans ce temps-là, les meilleurs joueurs de balle faisaient plus d'argent que le président des États-Unis. Fait que j'irais avec Cobbs.
Ouais, c'est un excellent film, mais quel être pitoyable.
Ah, raciste, homophobe, en tout cas, on nomme les
deux. Misogyne, ouais.
Moi, pour faire défriser les woke d'aujourd'hui, le Cobb, il aurait été bon.
Ah, puis, tu sais, on n'a pas parlé de Screwball. Ici, un bon documentaire sur Netflix.
Excellent.
Ceux qui n'aiment pas A-Rod, là, moi, ça ramène un peu ma haine vers A-Rod.
Bon, fallait que je finisse.
Non, mais c'est. Ouais, mais ça, c'est correct. Ça, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est tellement bien fait que A-Rod est joué par. Puis, c'est joué par les des enfants aussi. C'est extraordinaire. Screwball, là, c'est un documentaire fantastique sur Netflix. Si vous avez la chance, là, c'est très, très bon.
Ouais, finalement, on a fait un top pro, faire ça plus rapide, mais on aurait pu faire un top 5 parce qu'il y en a vraiment des bons films là, de baseball, des bons classiques, des bons un peu partout sur toutes les plateformes. On a pas mal été, tous les films qu'on a nommés ou les séries sont disponibles pratiquement toutes sur Netflix, donc je vous invite à y aller. Et boys, merci. Merci de me supporter dans mes choix.
On te supporte pas, on t'appuie, là, mais on te supporte pas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, on se voit, Barbu, dans deux semaines. Puis avant de nous quitter, yes. Où est-ce qu'on peut te lire, t'écouter, t'entendre?
Ben, on peut me lire sur le barbudeville.com. Puis là, j'assure les gens, il n'y aura rien à propos des Red Sox sur mon site. Je m'en fais un devoir. C'est quand même sérieux. Puis non, gardons ça sérieux, là.
Rigueur.
Oui, rigueur. Barbudeville.com.
Excellent. Un gros merci, Barbu, encore une fois, puis on se revoit dans deux semaines.
Hey, merci à toi, Jeff.
Merci, Max. Salut.
Bonne journée. Merci à toi, Jeff.
Membre de la famille H2O Web Media.